Les jardinières.
Nous sommes le 18 janvier et la neige n'a toujours pas pointé le bout de son flocon. Pire, on se croirait presque au printemps avec des températures qui chatouillent parfois les 10 degrés. Alors, faut-il se ruer au jardin pour bêcher la terre et préparer les premiers semis? Pour le savoir, nous allons parler jardinage pendant une heure et dans l'équipe des jardinières, il y a Raphaël. Bonjour.
Bonjour Mylène, bonjour à tous et surtout bonjour à notre spécialiste du jour, Olivier Ribaud. Bonjour Olivier.
Et bonjour à vous.
Vous êtes pépiniériste à Port-en-Truy et vous avez créé votre entreprise de paysagiste. Vous êtes là ce matin pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs qu'on attend évidemment par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez autrement l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et dorénavant, vous avez la possibilité de nous envoyer des photos de vos plantes, insectes ou jardins via le formulaire.
On devient technologique.
Ah, oui, on se professionnalise.
Et 2020 voilà, quand même.
2020, l'année de la photo. Donc n'hésitez pas à joindre une image, ça aidera notre jardinier à vous répondre. On parle bien sûr d'une image de jardin.
Hein. Oui, bien sûr, de plantes. Uniquement de plantes.
Les jardinières.
Olivier, les fêtes sont bel et bien terminées. Maintenant, les guirlandes sont rangées et il est plus que grand temps de se débarrasser de son sapin. Il est recommandé de le jeter aux déchets verts et non pas dans sa cheminée. Et moi, je me demandais pourquoi ne pas simplement aller le déposer dans une forêt, une sorte de retour à la nature.
Alors non, justement, comme on en avait déjà parlé avant la période de Noël, le sapin de Noël ne vient pas de la forêt, il vient de culture de sapin. Donc automatiquement, il n'est pas judicieux de le ramener en forêt parce qu'il est pas du même style que les sapins de forêt. Puis en plus, souvent ils sont secs, ils sont devenus très très rigides, très durs. Donc c'est mieux de les mettre dans une place de compostage. Ils viendront broyer, ils viendront déchiqueter, et puis ils vont partir en compost ou les plus grands partiront en copeaux pour être incinérés dans des endroits spécifiques pour ça. Donc non, n'hésitez pas à les conduire dans des places de compostage.
On peut aussi rebondir la même chose sur le compost. On fait notre petite cuisine. Est-ce qu'après, on pourrait ne pas simplement faire un petit trou en bordure de forêt, verser nos épluchures de pommes de terre ou carottes?
Alors non, ça non plus, c'est quelque chose qu'il faudrait surtout pas faire. On voit des fois des gens qui vont déposer à l'état sauvage des produits qu'on a utilisés, des plures d'orange, des carottes ou comme ça. C'est vraiment spécifique à aller emmener dans des stations de compostage pour que ce soit traité, broyé et réutilisé de matière normale et écologique. Donc non, ne surtout pas jeter les choses comme ça banalement. Même dans son jardin, il faut avoir des endroits précis pour faire son compost, pour que ce soit tout au même endroit et qu'on puisse travailler cette matière et puis la réutiliser à bon escient.
Comme quoi, même jeter ces vieilles plantes, ça devient compliqué.
Oui, exactement. Et puis, vous parliez de les mettre dans une cheminée. Non plus, faites très attention. Le sapin, même qu'il a l'air sec, parce qu'on l'a fait sécher très rapidement dans un appartement en l'espace d'un mois, si vous le découpez, que vous le mettez dans une cheminée, il est encore rempli de sève. Et cette sève, elle est devenue aussi dure, sèche, comme du miel dur dans le bois. Et puis, il va partir en fumée et en flamme très fort. Il va faire beaucoup de fumée. Et puis, c'est surtout très mauvais pour le système de la cheminée et puis de la ventilation. Donc non, c'est vraiment un arbre qui doit être éliminé dans une place de compostage.
Merci beaucoup Olivier. Pour poser vos questions à notre jardinier spécialiste, rien de plus simple, vous avez trois possibilités. Par téléphone, vous composez le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Pour les timides, vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous l'envoyez au 939 ou par le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières avec photo.
Comme l'a fait Cynthia en fin d'émission la semaine passée, on avait
ça pas fait une semaine qu'elle attend, hein,
oui.
Donc c'est le moment.
On va poser votre question, Cynthia. Vous nous demandiez bonjour, j'aimerais transplanter des framboisiers. Dois-je couper les branches à ras avant et à quelle période de l'année est-ce le mieux de le faire? Merci beaucoup pour vos conseils. Alors Olivier, on écoute votre réponse.
Alors tout à fait, oui, c'est une très bonne question en cette saison, parce que ben, comme on le voit tous, on a des périodes très ensoleillées, le sol est devenu un peu plus sec que ce qu'on avait des fois à l'automne. Alors c'est une période qui peut être utilisée, qui est une très bonne saison pendant l'hiver, à transplanter ses framboisiers. Alors je précise, ben, le faire comme maintenant, ça va parce que le sol est bon, mais si le sol serait gelé et puis serait couvert de neige, donc ça n'irait pas. Mais pour des périodes de cette année, par exemple, c'est une très belle saison pour transplanter. Quand on transplante une plante, que ce soit un framboisier ou un fruitier, tout n'importe quel arbuste, on va donc l'arracher, on va mettre ses racines un peu à l'air. Donc on va déjà recouper avec un sécateur les racines, on va les couper franches pour pas qu'elles soient écrasées ou abîmées. Donc elles vont refaire un système racinaire beaucoup plus facilement. Et puis on va aussi réduire ben justement la tige, comme elle l'a précisé, pas forcément à ras, mais on va laisser quand même 10, 15, jusqu'à 20 cm de tige, déjà qu'on verra le pied où on l'aura replanté. Et puis ça profitera pour faire un nouveau débourrement au printemps, pour faire des nouvelles pousses. Et puis comme ça repartira beaucoup mieux que de les laisser entiers.
Justement, la semaine dernière, Olivier, on parlait beaucoup dans cette période du début de l'année, de planification de son jardin, de se mettre en place, d'anticiper ce qui peut arriver avec ces changements de météo, avec ces températures de 10 degrés. Est-ce que justement, ça modifie un petit peu un planning qu'on aurait pu mettre en place, hein?
Alors, ça modifie certains travaux, comme toute personne qui travaille le sol le sait, qu'on va toujours travailler son sol quand on a des périodes favorables au niveau climatique. Donc, quand on est dans un sol un peu sec, quand on a un sol qui n'est pas gelé, donc on doit s'adapter à la météo, donc on doit faire des travaux. On voit ces jours quelques agriculteurs aussi qui tournent, justement, parce qu'on commence de faire des travaux un peu plus rapidement que des autres années, parce qu'on prévoit peut-être quand même qu'il arrivera un fort froid, de la neige ou encore de la pluie. Donc on adapte nos travaux par rapport au sol. Donc on peut les décaler, on peut les faire plus tôt dans la saison, comme maintenant 15 jours, 3 semaines d'avance ou même un mois. Mais si par exemple le sol serait gelé, ben on les fera plus tard. C'est pas néfaste. Transplanter un framboisier, ça aurait pu être fait depuis le mois de septembre, octobre de l'année passée jusqu'à cette année, au mois de février, mars, jusqu'en avril maxi. Parce que le framboisier, on sait qu'il part en végétation assez rapidement, mais plus vite il sera fait. Donc en cette saison, on a planté des arbres fruitiers la semaine passée et ça va très bien. Donc mais le sol serait gelé, on attend, mais après le printemps arrive rapidement et l'arbre a moins de temps à se mettre en place et la terre se tasser autour de ses racines.
À retenir donc que le jardinier s'adapte aux conditions météo. Les jardinières, c'est jusqu'à 8h. Vous pouvez poser vos questions au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. C'est Olivier Ribaud qui répondra directement à votre question. Sinon, vous avez l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous l'envoyez au 939. Et bien sûr, le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et vous pouvez même ajouter une photo.
Les jardinières.
Les jardinières sont en votre compagnie jusqu'à 8h. On répond à toutes vos questions. Et là, on va parler d'une plante d'intérieur, Raphaël.
Exactement, d'une question qui nous arrive de Neuchâtel. J'ai un beau carnet, un magnifique, dont je prends soin depuis des années. Depuis 3-4 ans, il est dans un pot qui se régule tout seul. Il suffit de remplir le réservoir chaque fois que ce dernier est vide. Ça fait 2 saisons. Et je me dis que je dois le rempoter, mais que je ne le fais pas. J'ai aussi découvert des centaines de moucherons derrière la plante et en la déplaçant, mais je n'ai pas l'impression qu'ils viennent de la plante. Et là, bah c'est le drame. Et Jennifer nous a envoyé des photos de sa plante. Olivier, on vous laisse un peu déjà décrire cette plante et puis donner des pistes à Jennifer pour la sauver cette plante.
Alors oui, d'accord, j'ai la photo sous les yeux, donc je vais déjà commencer par le Beaucarnéa. Pour préciser, c'est un pied d'éléphant, donc c'est une plante verte avec un grand tronc, style yucca, mais en bas il a cette grande partie enfle qui fait comme une boursouflure au niveau du sol. Donc ça tient très bien dans nos appartements. Elle a son souci, elle l'a mis dans un pot qui s'autogère. Donc c'est ça qui est pratique. Et puis les racines sont ressorties par le dessous du pot, si vous voulez, parce qu'il y a une réserve d'eau dans ce pot pour que l'eau reste à même le pot et qu'elle ne va pas s'écouler sur le sol. Donc vous avez un espace. Et puis ces racines, elles sont venues se mettre là-dedans parce que c'est là qu'il y a de l'eau et puis qu'il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui vont sortir du substrat. Et puis bien sûr, c'est là qu'il y a les meilleurs éléments pour la plante. Donc c'est pour ça qu'elle a développé toutes ces petites racines blanches avec plein de petits poils absorbants. Donc on voit, elles sont toutes blanches. Donc c'est ces racines-là qui vont nourrir le plus son beau carnéa. Donc comme elle le dit bien, elle ne l'a pas rempoté depuis plusieurs années, donc elle peut le faire en cette période. C'est une très bonne période parce que la plante verte en hiver, eh bien, elle est plus en état de repos. Elle va redémarrer en végétation à partir du mois d'avril quand la luminosité viendra beaucoup plus importante, avril-mai. Donc si on peut rempoter ces plantes vertes, ces plantes d'intérieur pendant la saison d'hiver, eh bien, c'est les meilleures périodes. Donc elle va leur sortir de ce pot. Moi, je trouve que ce pot, par rapport à la photo, est déjà bien conséquent. Donc, si elle veut ne pas le changer, elle peut le remettre dans ce pot-là. Donc, elle va sortir cette plante, elle va couper ces petites racines qui sont sorties en dessous. Elle peut les sevrer, il n'y a pas de souci. Et puis, elle va démonter un peu la motte de terre, le substrat, enlever le vieux substrat, et puis reprendre un nouveau sac de terreau spécial plante d'appartement qu'elle va trouver dans le commerce. Et puis, il y a additionner un peu de matière organique, style engrais, exprès pour les plantes d'appartement aussi. Elle va mélanger ça au substrat et puis re-rempoter cette plante. Et puis en la rempotant, elle va la rehausser un peu par rapport au niveau du haut du pot. Comme ça, elle pourra remettre 10-15 cm de terre, de substrat au fond de ce pot. Et puis la replanter en serrant bien la terre pour que sa plante tienne fortement dans ce pot. Et puis après, elle arrose de nouveau copieusement. Surtout les 2-3 premiers arrosages, elle les fera par le haut, pas par le réservoir. Comme ça, la plante aura tout de suite de l'eau sur les racines restantes. Et puis elle va refaire des racines qui vont redescendre dans cette réserve d'eau. Et puis ça va continuer de vivre comme ça, sans problème.
Ben merci Olivier pour toutes ces précisions.
Juste petit oublié, les petits moucherons qu'elle a eus, ça peut venir d'un arrosage un petit peu trop conséquent une fois, et puis qu'il y a eu une eau stagnante, et puis ça a fait des petites mouches comme sur des fruits. Mais en principe, ils disparaissent tout seuls, ou sinon après, elle peut utiliser un produit spécifique pour ça.
Merci beaucoup Olivier, en tout cas on espère que cette belle plante sera sauvée.
Et on voit l'utilité des photos surtout.
Exactement, d'ailleurs vos photos on les attend, vous pouvez nous les envoyer via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières, il vous reste une demi-heure pour poser vos questions à notre invité Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-en-Truy. Qu'il soit question de plantes d'intérieur, de votre potager ou de vos arbres fruitiers, Olivier est là à votre service.
Et pour vos questions, vous avez trois possibilités. 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ça c'est par le téléphone pour être en direct avec nous dans les jardinières. Et si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez utiliser l'option message avec votre téléphone portable. Par exemple, vous envoyez un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet.
Et d'ailleurs, on va rajouter que vous pouvez nous envoyer vos photos désormais via le formulaire disponible sur nos sites internet. Une question reçue par SMS, une question de Baptiste qui nous demande: quelle haie me conseillez-vous pour délimiter mon verger? Il se trouve en région de Port-en-Truy. Il nous souhaite une bonne journée. Olivier, la réponse est à vous.
Merci beaucoup. Une haie pour délimiter un verger, alors moi je pour moi, personnellement, je partirais directement dans une haie vive, une haie sauvage, avec des arbustes indigènes. Je prendrais du troène, du fusain, des arbres de chez nous, du charme, du noisetier, pour faire une jolie haie vive, où c'est que les oiseaux peuvent venir s'y poser et puis rester par là. Si c'est un grand verger, s'il a un plus petit verger, c'est que sa haie doit rester très compacte, et peut-être faire qu'une haie de troène ou de charme aussi, de nouveau un feuillu de nos régions. Après, on peut partir sur des essences un peu diverses, mais moi je resterai sur une haie comme ça, vive, pour que les couleurs, les formes d'arbustes et puis le feuillage changent au cours de la saison, pour avoir une haie qui soit aussi bien naturelle que d'avoir quelque chose de très strict, très carré. À mon avis, c'est sur ça que je partirai.
Parce que quand on parle de haie, souvent le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est thuya.
Alors justement, c'est ce que je voulais éviter de parler du thuya ou même du laurier.
Oubliez ce qu'on vient de dire, ces arbres n'existent plus.
C'est des arbres qui sont déjà aussi avec certains, dans ces périodes, avec des problèmes au niveau sécheresse pour le thuya. Les lauriers ne sont pas forcément des arbres donc, de chez nous. Donc essayez de rester, redevenir sur des plantations indigènes pour arriver à garder notre faune, notre flore intacte et puis qu'ils aient la possibilité de trouver quelque chose pendant les périodes d'hiver où même ces arbres sont très résistants aux sécheresses, aux fortes chaleurs en été, donc ce seraient ces plantes qui seront le plus adaptées.
Mais justement, on parlait de haies, moi qui suis plus ou moins encore novice dans le jardinage, est-ce qu'il n'y a pas des hauteurs délimitées selon les villes, les voisinages, les quartiers au niveau des haies?
Si, alors une haie, quand on dit une haie, on parle d'une haie vive, sauvage, où c'est qu'on va incorporer des essences hautes comme du hêtre, du charme, du noisetier qui peuvent monter. Ce que je disais avant, si on prend une haie compacte que de troène, on peut la maîtriser à une hauteur de 1m20, 1m50. Maximum selon les distances qu'on veut. Après, bien sûr, ça oblige une taille une fois par année sans problème, mais ça supporte ces tailles et puis ça peut être contenu dans ces gabarits de règlements communaux, comme vous le disiez, sans problème.
Merci Olivier, on attend vos questions comme l'a fait Baptiste, par exemple par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 et puis bien sûr le standard téléphone est ouvert au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute et puis toujours le formulaire disponible sur nos sites sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Et on a une question, elle est magique Mylène pour, oui. Pour la suite, puisque un de nos auditeurs qui est resté anonyme nous dit, j'ai vu mon voisin brosser les troncs de ses arbres, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il fait ça? Merci.
Alors, il est resté anonyme sûrement parce qu'il ne voulait pas dire qui était son voisin, je pense. Mais c'est une pratique qui est faisable, ça dépend toujours l'échelle, le nombre d'arbres qu'on a à faire, mais si vous avez un ou deux arbres fruitiers, vous pouvez brosser ces troncs. Le fait, c'est manuel, c'est mécanique, c'est d'enlever le lichen. Le lichen, c'est cette petite peau grise, c'est un champignon qui se développe sur les troncs des arbres. Certaines essences en font plus que d'autres. Vous prenez des poiriers par exemple, on fond rapidement un peu. C'est pour enlever cette petite pellicule grisâtre, verdâtre qu'on a sur les troncs. Et c'est de là où nichent pendant l'hiver beaucoup de parasites, style des cochenilles ou des larves de certains insectes. Et puis c'est pour éliminer ça. Donc c'est juste un effet mécanique, c'est pour nettoyer son arbre pour qu'il n'y ait pas de nid à parasites pour le printemps où ils peuvent ressortir et puis atteindre sa plante.
Merci Olivier, on va faire une pause musicale avec France Gall et son titre Résiste. N'hésitez pas à nous appeler au 0900 70 20 20 pour poser vos questions jardinage à Olivier Ribaud. Et bien sûr toujours le SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 et le formulaire disponible sur nos sites sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. L'été passé, Josiane a repéré des cochenilles sur ses arbres fruitiers. Elle n'avait pas fait de traitement. Peut-elle en faire maintenant? Si oui, comment en procéder? Sinon, quand le faire?
Alors, on va rebondir sur la question d'avant. Comme vous disiez avant, on a frotté des troncs, des branches pour enlever le lichen où peut se cacher ces larves de cochenilles et autres insectes. Donc maintenant, on peut y faire un traitement d'hiver. Je dirais que c'est le seul traitement qui est vraiment sans côté néfaste pour la plante et puis le climat et tout. C'est de faire un traitement à base d'huile. On appelle ça d'huile d'hiver. Vous trouvez ça dans le commerce. C'est un produit qui est très gras. Donc vous allez asperger votre arbre au printemps, au débourrement, au mi-mars, début mars, mi-mars, selon quand les bourgeons commencent à s'ouvrir. Et puis vous traitez cet arbre et puis c'est ça qui va, le produit va englober le parasite et puis ça va l'étouffer, puis ça va l'empêcher de croître et puis d'être contaminé le végétal. Donc c'est la seule solution pour faire un traitement au printemps au débourrement.
Merci Olivier. On va passer à une question
désherbage. Exactement, puisqu'on nous pose cette question. Je sais que pour aider à désherber, on peut recouvrir le sol avec une bâche, mais j'aimerais limiter ma consommation de plastique. Connaissez-vous des alternatives moins polluantes ?
Oui, alors tout à fait, ces bâches plastiques, bon ben voilà, c'est ce qu'on voit le plus pratique. Mais si vous utilisez une couverture de mulch d'écorce ou d'écorce de sapin ou de copeaux de bois ou de paille ou de feuilles, ce sont toutes des couvertures naturelles qui peuvent être mises sur le sol. Et on va mettre ça sur un sol dès le printemps, le plus rapidement possible, avant que les graines ne germent. Parce que le but, c'est d'étouffer la graine en dessous de cette couverture. Donc si vous faites une couverture de 10, 12 cm d'un de ces produits, ça va étouffer les graines et ça va les empêcher de germer et puis ça va empêcher d'avoir une couverture de mauvaises herbes.
Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de la paille, par exemple, j'imagine, dans une
alors, un magasin. Paille, feuilles, bon ben voilà, on va trouver ça soit dans l'état naturel de chez nous, ou sinon après les mulches d'écorce, bien sûr, on les trouve en sac assez facilement, ou en vrac, dans des magasins, chez des professionnels comme chez nous, on vous trouve toujours ces produits. On utilise de plus en plus ces produits pour justement éviter ces bâches plastiques sur ces talus qu'on voit de plus en plus.
Et justement, cette bâche plastique, est-ce que, pareil, il faudrait la mettre aux alentours du printemps ou est-ce qu'il y a une autre date pour justement y poser ces bâches un peu plus polluantes ?
C'est toujours bien de mettre ça avant la pousse de l'herbe. Donc, on sait qu'à partir des beaux jours, mars, avril, eh ben, ça va commencer à germer et puis pousser. Donc, c'est avant qu'il faut étouffer ces graines pour qu'elles ne sortent pas.
Merci Olivier pour ces précisions. On rappelle ce numéro pour poser vos questions directement à notre professionnel, le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et on va parler d'une rivière. J'habite près d'une rivière et je me demandais si je pouvais prendre l'eau pour arroser mes plantes. La rivière ne passe pas directement sur mon terrain et l'eau est un peu vaseuse. Merci.
Alors oui, c'est bien sûr qu'on peut prendre une eau de rivière ou d'étang pour arroser des plantes. Si, comme elle dit, elle est vaseuse, ça doit sûrement être en surface. Après, si vous allez un peu plus profondément, l'eau, elle sera plus claire et puis elle peut être soit filtrée à travers un bout de tissu simple ou comme ça. Donc c'est possible. Après, il ne faut pas que ce soit en quantité parce qu'après, je pense que si on va piocher dans la rivière, ça doit être demandé, mais si c'est quelque chose comme ça, en petite quantité, elle peut l'utiliser sans problème. L'eau, elle sera meilleure et moins chargée en calcaire que des eaux de réseau.
Profite de vous poser la question pour les fontaines dans les villages. On voit souvent des fontaines hein, dans les villages de l'arc jurassien. Oui. Est-ce qu'on a le droit de prendre l'eau de ces fontaines pour arroser ces jardins ?
Alors, vous me posez une bonne question. Je pense que ça doit être le droit d'utiliser, de prendre de l'eau pour une consommation personnelle, comme ça, privée. Mais
si c'est donc, vous ne videz pas la fontaine.
Oui, c'est pour commencer d'arroser son jardin et ses propriétés. Non, je ne pense pas que ce soit autorisé. Ou alors, après, il faut se retourner envers les autorités communales pour demander. Mais je ne pense pas que c'est autorisé. C'est juste pour y boire si l'eau est potable. Souvent, des fontaines dans des villages, c'était des réseaux d'eau qui étaient
en circuit fermé.
Maintenant, oui, mais avant, c'était quand même des réseaux qui étaient utilisés pour aller s'abreuver. Donc, c'est de l'eau, elle est très bonne, mais ce n'est pas fait pour être pris par tout le monde.
On enchaîne avec une nouvelle question. Elle nous arrive de Renaud qui habite à Haute-Rive et qui va concerner, je pense, beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup de gens qui ont le rhume des foins vont être intéressés puisque Renaud subit chaque année un gros rhume des foins, mais adore les plantes. Il aimerait en avoir à l'intérieur, mais pas envie d'être toute l'année malade. Est-ce que vous pourriez, Olivier, lui conseiller des plantes bonnes pour lui ?
Alors le rhume des foins, c'est une allergie, hein. C'est comme une plante, vous avez des plantes qui sont allergènes au toucher, et puis le rhume des foins, c'est des allergies dues à des pollens. Donc si vous avez, comme on voit avant, un bocarnéa, ne fait pas de fleurs, ne fait pas de pollen, je ne vois pas la raison qu'il soit allergique à une plante verte d'appartement. Il va être allergique à des graminées spécifiques, des herbes sauvages ou des choses comme ça, des noisetiers, des bouleaux, mais ça on ne va pas les mettre en appartement. Donc dans une maison, on aura des plantes d'intérieur qui ne sont pas allergènes au niveau rhume des foins, mais qui seront certaines. Il y a des primulas qu'on trouve au printemps qui sont allergènes au niveau du toucher. On peut choper des eczémas, des choses comme ça. Mais sinon, si on y est sensible en plus. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'avoir un rhume des foins à l'intérieur à cause des plantes.
Merci Olivier. On vient de recevoir une question via notre formulaire. Une question de Pascal qui vit au Val-de-Travers à Fleurier. Il nous dit « J'ai des branches qui sortent du pot. Peut-on les couper sans risque ?» C'est un Focus Elastica. Il nous a même envoyé une photo. Alors nous allons la découvrir en même temps que vous. Donc on voit ce pot avec un arbre et... Je ne sais pas si vous pouvez, Olivier, voir la photo.
Non, je ne crois pas encore. Alors, le Focus, c'est un Ficus elastica, hein, c'est une plante d'intérieur. C'est Ficus elastica, c'est une plante qui fait, je pense, des grosses feuilles un peu très luisantes. Et puis, il a des racines, des tiges, des brunes. Ce sont des racines aériennes qui peuvent ressortir du pot. Et ces racines sont faites pour absorber l'humidité de l'air et... On peut les couper, bien sûr. Ça, en coupant, ça va faire un petit dégagement laiteux. Je reçois votre photo. Ça va faire un dégagement laiteux qui va couler, qui va cicatriser. Mais le fait, c'est... oui, tout à fait. Ce sont des racines aériennes. Donc, on peut les couper. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est, sur ce cas précis du pot, ce serait de le ré-rempoter, donc enlever ce vieux pot pour le rempoter dans un pot plus grand et puis insérer ses racines dans le pot. Ce ne sont pas des tiges, ce sont des racines aériennes qui sortent sur la plante. Elles peuvent sortir sur toute la partie de la plante. Alors des fois, quand elles sont trop hautes, on les coupe. Ou sinon, on les laisse, ça peut être décoratif. Puis si elles sont tout en bas, ben, on va les rassembler puis on va les remettre dans le pot pour qu'elles vont se transformer après pour être en racines du sol.
Merci beaucoup, Olivier.
Ces racines sont spécifiques à cette plante. On va dans les pays d'origine des ficus, on voit les ficus, il y a les racines qui descendent de l'arbre, qui viennent retoucher le sol. Et quand elles sont en contact de la terre, eh bien, elles refont des racines dans le sol. Donc, c'est des racines aériennes.
Comme quoi, c'est bien pratique hein, d'avoir les photos pour vous aider à répondre aux questions.
C'est un ficus élastique.
Ficus. Oui. Il y a juste eu une faute de frappe, en fait, sur le message de mi-focus. Je me suis dit, je vais lire. Voilà. Il est déjà presque l'heure de se quitter.
Que le temps passe
Olivier,
vite.
Oui. Ce matin, oui, nous avons parlé de pieds d'éléphant, de haies, de transplanter des framboisiers, de brosser un arbre. Et puis avant de se dire au revoir, on va passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Olivier, dites-nous quoi faire au potager. Nous sommes le 18 janvier, on se croirait au printemps, mais pas vraiment.
Alors, pas aujourd'hui. Hein.
Ben non, pas aujourd'hui, encore, mais ouais. Hier, avant-hier, c'était le printemps.
On peut encore, comme on disait les autres fois, finir de préparer, de réfléchir à ce qu'on va mettre en place dans son potager, plutôt au niveau logistique, d'acheter des graines, de savoir ce qu'on va y semer, de faire une liste de ce qu'on voudrait planter pour le printemps. Mais au niveau potager, normalement, il devrait déjà avoir été bêché et retourné à l'automne. Et puis, dans un mois, là, on pourra commencer de faire les premières préparations à l'intérieur, dans des petites serres et des choses comme ça, pour semer les premiers plantules de salades et autres. Moi, je dirais qu'il y aurait plus de travaux à faire maintenant, pour ceux qui ne les ont encore pas fait dans ces deux prochains mois, ce sont faire les tailles fruitières, ou tailles en cours d'ornement, sans problème, à tailler les arbustes à fleurs, des grandes haies, des grands arbres, des grands végétaux. On voit un peu partout, on est tous à la taille. Pendant deux mois, on peut faire ces travaux. Tailler, évacuer ces branches, ça prend beaucoup de temps. Donc, ce sont des travaux qu'on peut commencer maintenant. Et puis, vu les météos qu'on a, ben c'est approprié pour ça.
Merci beaucoup, Olivier Ribou. On rappelle que vous êtes pépiniériste à Porrentruy et chef de votre entreprise, Olivier Pépiniériste, création et entretien de vos alentours. Un grand merci d'avoir été en notre compagnie ce matin et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. On vous souhaite une toute belle fin de journée et à très bientôt.
Merci beaucoup à vous et à bientôt.
À bientôt. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites web. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Fabrice Rondy, paysagiste à Porrentruy. Et n'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions. Faites-le en tout temps par SMS ou via le formulaire. Et puis on vous souhaite un bon week-end.
Exactement, excellent week-end. À bientôt Mylène.
À bientôt.
7h, 8h, les jardinières.